Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'ascension de Mobutu, coup d'État, contre-révolution, néocolonialisme dans l'ancien Congo belge, devenu République du Congo et ensuite, sous son autorité, République du Zaïre. L'histoire contemporaine est une discipline extrêmement difficile. Elle est à cheval sur plusieurs disciplines, l'histoire, bien sûr, la science politique, la sociologie, et elle cumule toutes sortes de techniques de recherche. La presse en est une de ses sources, les lettres personnelles, si on peut y accéder, en est une autre, les rapports officiels rarement mis directement à la portée des chercheurs, les rapports des services spéciaux, notamment de la CIA et des autres services spécialisés, les rapports des organisations internationales, mais aussi les confidences. Confidence des acteurs qui ont participé à ces événements, et cela suppose de la part du chercheur le déploiement de toute une série d'astuces ou de postures ou de techniques de conviction qui lui permettent d'accéder à ces sources. C'est ce que réussit un chercheur que nous connaissons déjà dans Mémoire d'un continent, qui avait écrit il y a presque 20 ans aujourd'hui un livre très remarqué sur la assassinat de Lumumba, livre qui a provoqué des réactions en chaîne et qui a conduit, entre autres, à la création d'une commission parlementaire belge qui a conclu, en effet, sur un certain nombre de responsabilités de Belges et de responsabilités de l'État belge dans l'assassinat de Lumumba et dans le désordre qui s'est installé au Congo depuis cette époque. Ludovic de Witt revient aujourd'hui avec un autre livre, L'ascension de Mobutu, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature, livre qui est donc un livre d'histoire qui reprend l'histoire du Congo depuis l'indépendance et qui va jusqu'au coup d'État de Mobutu en 1965. Une question technique, Ludo, est-ce qu'on accède à ces documents facilement, pour les jeunes chercheurs? Comment il faut faire pour arriver à lire toutes ces lettres, tous ces rapports dont certains étaient peut-être couverts par le secret, dès lors que les gens savent que, votre approche de l'histoire contemporaine de l'Afrique et notamment du Congo est une approche d'homme de science, mais qui tient à nommer un chat un chat.
En principe, formellement, les archives belges, ils sont ouverts quand il s'agit d'une période qui a 50 ans ou plus. Et donc, pour les périodes entre 20 et 50 ans, on peut demander un accès aux archives, mais tous ces documents, ils sont lus par une commission diplomatique. Et donc, il est tout à fait clair que parfois, il y a des documents qui ne sont pas montrés aux chercheurs. Donc, c'est un peu un jeu entre un chat et un souris. Et ce qu'il faut surtout, c'est avoir beaucoup de persévérance. Notamment, mes documents que j'ai trouvés et qui étaient assez accablants en ce qui concerne la destruction du gouvernement de Lumumba et son assassinat. C'est clair que ça n'était pas le but que j'aurais trouvé, ces documents, mais seulement le fait qu'on demande des piles de documents qui, parfois, en soi, disent pas grand-chose. Il y a, par exemple, un document qui dit « on va envoyer les deux enfants au Congo ». Bon, en soi, ça dit rien. Et donc, les diplomates qui ont lu ce document, ils ont laissé passer ce document. Mais dans une autre pile, j'ai trouvé les références aux deux personnes qui sont envoyés et qui sont effectivement liés à un projet d'assassiner Lumumba, un projet qui est expliqué dans les archives américaines. Donc, si on met ensemble tous ces éléments, on retrouve, donc, ça reçoit une signification, et donc, ça a échappé à pas mal de diplomates, et moi, je sais, donc c'est l'ancien archiviste central ici aux affaires étrangères qui m'a confirmé que, en fait, après la publication de mon livre sur l'assassinat de Lumumba et la décision d'organiser une commission d'enquête, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, est foncé dans les archives, il a engueulé les responsables là-bas, parce que c'était clairement pas pas le but que j'aurais vu ces archives. En fait, il y a pas mal de chercheurs qui étaient fâchés sur moi parce que à ce moment, on a fermé toutes les recherches sur la période Congo-Rwanda-Burundi. Ce n'est que quelques années après qu'un nouveau ministre des Affaires étrangères a ouvert les archives. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des trou dans les archives, hein, parce qu'il y a notamment dans les archives belges sur la période 64-65, une période dans laquelle la force terrestre qui a été organisée par la Belgique pour reconquérir le terrain et qui était dirigée par des officiers supérieurs belges, il y a pas mal de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité qui ont été faits sous la responsabilité de ces officiers
belges.
Sous la responsabilité des officiers belges et le gouvernement belge était au courant. Hein. Il y a les telex que je publie dans mon livre dans lesquels, par exemple, le ministre des Affaires étrangères belge Spaak, il parle de la sauvagerie avec lesquels que la répression est organisée au Congo. Et son problème est surtout que ça peut pas filtrer dans les médias, quoi. Donc, il y a encore des trous inexplicables dans les archives. Aussi bien aux États-Unis, hein, parce que là-bas, on peut demander, donc il y a le Freedom of Information Act qui a la possibilité pour les chercheurs pour demander l'accès aux archives. Et il y a jusqu'à aujourd'hui des documents, notamment sur le coup d'État de Mobutu, qui sont bloqués par la CIA ou dont la moitié des documents est donc illisible. Donc ça reste toujours une lutte et donc persévérance, essayer d'accumuler un maximum d'archives possible, aussi des archives privées, parler avec des gens, et c'est comme ça qu'on peut un peu approcher la vérité historique, mais connaître la vérité en tous les détails. Je crois que c'est vraiment un idéal qu'il faut essayer de réaliser, mais c'est très difficile.
Lorsqu'on approche donc de ce fameux coup d'État qui aura lieu en novembre 1967, la situation du Congo est quand même très problématique. Qu'est-ce qu'il y a comme force sur place? Ce qui restait de la rébellion sur laquelle on avait peut-être compté pour être une révolution, bon, on a vu que ça n'était pas vraiment une révolution. Les Binza Boy se sont compromis un peu dans le pouvoir, l'exercice du pouvoir politique. On imagine que le système de prédation, de corruption s'est installé largement dans le système politique. Les entreprises minières et autres étrangères sont encore là. Comment dire? Est-ce que Mobutu a bénéficié d'aide, de complicité, de la compréhension de puissances étrangères, donc en particulier la Belgique et les États-Unis?
Oui, disons, le coup d'État, c'est 24 novembre 65. Hein. À ce moment, en fait, la rébellion était presque finie. Il y avait encore quelques petites poches de rebelles, mais c'est insignifiante. Les Cubains étaient partis tout récemment. Et donc, en fait, l'emprise du régime central dans la capitale était extrêmement faible. On peut dire que, en quelque sorte, les systèmes sécuritaires au Congo, à ce moment, étaient privatisés complètement. Il y avait des mercenaires qui erraient un peu partout dans le pays, toutes les usines avait embauché donc des mercenaires ou des agents de sécurité qui donc en quelque sorte fonctionnaient aussi comme une police locale. Et donc la situation en 65 est, ça se ressemble beaucoup à celui de 61 dans le sens que le régime central était extrêmement faible, toujours la mousse espagnole avec les racines dans l'air, mais ce régime a été usé, discrédité sur le plan national et international, vu la répression sanglante qui a été exercée contre le territoire qui était sous le contrôle des rebelles, et aussi internationalement, parce que le fait qu'on a fait appel aux mercenaires, ça a vraiment provoqué un dégoût généralisé en Afrique, même de la part des dirigeants modérés et pro-occidentaux. Et donc, c'est justement pour contrecarrer cette tendance que le président Kassavubu a fait un virage un peu à gauche, qui a commencé à utiliser un discours un peu indépendantiste, un discours un peu critique envers donc le néocolonialisme. C'était de la propagande, quoi. Mais en tout cas, ça a quand même provoqué à l'intérieur de la population de la capitale donc l'idée qu'il y avait un espace politique pour justement pour réagir contre cette emprise du néocolonialisme sur le pays. Ça a provoqué des incidents, ça a provoqué des manifestations. On a manifesté devant l'ambassade belge, on a brûlé le drapeau, le tricolore belge, etc. Et donc, très vite, il y a eu une intervention de l'Occident, aussi bien des Américains, mais aussi de la Belgique, aussi de la part du ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, qui a donc poussé Mobutu à intervenir. Et Mobutu est effectivement intervenu, et c'était assez facile, parce que ce qu'a fait Kassavubu, il a licencié le premier ministre Tshombe qui a été rappelé en service parce qu'il avait le fric, parce qu'il avait donc...
La confiance aussi des entreprises étrangères.
Exact, et aussi ses troupes katangaises qu'il avait emmenées. Mais une fois que Tshombe, qui avait une certaine assise chez la population, a été éliminé par Kassavubu, Kassavubu, c'était vraiment... il vivait dans le vide, quoi. Il n'avait aucun support, on dirait...
Oui, oui.
Il n'avait même pas des racines dans l'air, quoi. Et donc, pour Mobutu, à ce moment, après qu'il a été incité par la CIA et par Paul-Henri Spaak pour réagir, c'était pas vraiment un coup d'État, en fait. En fait, c'était une sorte de coup de palais, plutôt. Hein, il a donc basculé, chassé Kassavubu avec un simple coup de téléphone, quoi. Et donc, il a pu prendre le pouvoir. C'était, à ce moment, il pouvait commencer à construire une vraie dictature militaire, justement parce que dans la période avant ça, dans 64-65, vu que la reconquête des terrains qui étaient sous l'emprise nationaliste a été faite dans un bain de sang effroyable, ça a tellement atomisé la population, terrorisé la population, que pour un très long temps, c'était fini encore d'aspirer à se mobiliser contre ce système néocolonial. Quand je parle avec des gens, des coopérants qui était à l'époque au Congo, il disait, avant 64, quand on courait dans la rue, parfois, derrière vous, derrière ton dos, vous entendez le cri « Uhuru » pour l'indépendance. Il faut un vrai indépendance. Eh bien, ça, c'était fini après 64. Vraiment, la population était atterrée complètement. Et donc, c'était une sorte de cimetière politique qui a donné la possibilité à Mobutu. Et ça, complété par le fait que donc il y avait un influx d'argent venant de la Belgique et des États-Unis pour avoir une certaine stabilité dans le pays pour quelques années. Ce qui a amené la Belgique officielle, et notamment en 2005, quand on a donc organisé une très grande exposition sur l'histoire du Congo, ici au musée de Tervuren.
Au musée royal de Tervuren.
Exact. Une exposition qui a été visitée par des centaines de milliers de Belges, et dans laquelle, qu'on dit, en 1965, Mobutu donne une nouvelle forme à l'État. Il renoue les liens entre la politique et la population. Mais en fait, c'est ça ce qui s'est produit. Il y avait cette cimetière politique. Il avait donc les mains libres, justement, pour établir sa dictature personnelle jusque dans les petites finesses, quoi.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe et de toute crainte.
Le micronationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique.
Ambacho kilimo amukolo. continent. Elikiam Bokolo.
Ludo de Wick, nous arrivons à la fin de cette émission. Le Mobutu lui-même comme personnage politique, aujourd'hui nous sommes en 2018 en République démocratique du Congo, on constate que un certain nombre de gens, notamment parmi les jeunes, qui répètent les formules de la Deuxième République, Mobutu le battant, Mobutu le vainqueur, Mobutu, etc. On a l'impression que le coup d'État, le régime policier dictatorial qui s'instaure par la suite, a été en quelque sorte lavé par le processus historique et peut-être aussi par un discours nationaliste. Enfin, nationaliste, soi-disant nationaliste, lazarianisation, etc. Tout ça, c'est de la comédie ou ce sont des ressources politiques qu'il a mobilisées pour, en quelque sorte, consolider durablement sa dictature.
Ben, l'Occident avait, en 60-61, on peut dire qu'en 60-61, les politiciens qui collaboraient avec l'Occident étaient vraiment des hommes de paille. Ils étaient faibles, inexpérimentés, ils n'avaient pas vraiment de pouvoir. Et donc, ils ont utilisé les gens qui étaient disponibles. Il ne faut pas oublier que dans le gouvernement Lumumba, il y avait 4 indicateurs de la sûreté belge. Et donc, un de ces 4, c'était Mobutu. On a pris Mobutu justement parce qu'il a été nommé chef de l'armée congolaise. Et c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un fin connaisseur de la tactique. Il a très bien appris comment bouger. Il a été éduqué d'ailleurs d'abord par les officiers supérieurs belges comme Louis Marlière et ensuite par Larry Devlin de la CIA.
CIA, oui.
Oui. Donc je crois que Mobutu, après son prise de pouvoir, effectivement il devait se laver de cette collaboration intense avec l'Occident, avec le fait qu'il a aussi utilisé les mercenaires justement pour garder son pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'en 68, après une intervention du roi Baudouin et du ministre des Affaires étrangères belge Hermel, il a laissé partir les mercenaires qui avaient, encore l'année avant, organisé un massacre effroyable au camp Ketele, à Kisangani, hein, où ils ont massacré des centaines de soldats congolais, y compris des femmes et des enfants. Donc, pour se laver de tout ça, donc pour recommencer sur une base nouvelle, il a hissé le drapeau de Lumumba, quoi. Et donc, il a déclaré Lumumba arrêt national, oui, exact, mais tout ça, ça cadre dans une opération de public relations, justement, pour être acceptable pour la scène diplomatique internationale et surtout africaine.
Justement, lorsqu'on regarde ces années 60, le Congo qui avait été à une époque, vous l'avez rappelé dans une précédente émission, l'espoir pour beaucoup de patriotes d'être une véritable révolution, peut-être comparable à ce que l'Algérie avait été à une époque, finalement le Congo va devenir le symbole du néocolonialisme triomphant, même si le discours c'était un discours soi-disant national sur le plan économique. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître à Mobutu une sorte de talent plus ou moins démagogique pour justement mobiliser les gens que la force publique dont il était l'incarnation avait martyrisé, tué dans le passé?
Oui, elle a certainement ce talent et je comprends que aujourd'hui, vu l'état du Congo, qu'on regarde avec un œil bienveillant à ses premières années de Mobutu. Juste comme on peut dire que c'est Léopold II, avec son état indépendant du Congo, est en quelque sorte le père de l'indépendance, enfin le père de la nationalité congolaise, quoi. C'est terrible à dire, mais quand même c'est vrai, hein, c'est là-bas dans ces structures politiques que s'est forgée une certaine conscience nationale qui subsiste jusqu'à aujourd'hui.
Merci à vous Ludo de Wick pour ces deux leçons d'histoire politique, une histoire portée par la chaleur, la lucidité de la raison et la chaleur du cœur. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.